BFM Business. Midi, leur H. Stéphane Pedrazzi.
Il est midi sur BFM Business. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition et pour commenter cette actualité économique particulièrement chargée aujourd'hui. D'abord dans le secteur automobile, Peugeot, Citroën et Fiat Chrysler ont confirmé ce matin leur projet de fusion. Des discussions sont en cours, elles donneraient naissance au quatrième constructeur automobile mondial en nombre de véhicules vendus. Mais le gouvernement français, actionnaire de PSA, est-il prêt à faire des concessions et peut-on réellement envisager une fusion entre égaux? On sait par expérience que c'est souvent difficile. Nous en parlerons à partir de midi et demi avec Mathieu Courtecuisse, le président de SIA Partners. Dans les transports aériens, cette fois-ci, on parlera d'Airbus qui multiplie les succès commerciaux mais dont la production a du mal à suivre la cadence. L'avionneur européen vient de signer un énorme contrat en Inde mais en parallèle, il revoit à la baisse son objectif de livraison pour 2019. Yann Kochenek, rédacteur en chef d'Air et Cosmos, sera notre invité tout à l'heure à midi et quart. Et puis, la France confirme sa relative bonne résistance au ralentissement économique mondial avec une croissance de 0,3% au troisième trimestre. C'est en ligne avec les prévisions. On en parle en détail dans quelques instants, mais auparavant, on fait le point sur l'actualité économique à la mi-journée et c'est bien sûr avec Thomas Asportas.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous et on ouvre bien sûr ce journal avec ces discussions officialisées entre PSA et Fiat Chrysler qui donneraient naissance au numéro 4 mondial de l'automobile. L'information était parue dans la presse hier soir et les deux groupes ont donc décidé ce matin de confirmer que des discussions pour une fusion été bel et bien en cours. Alors ce n'est pas la première fois que PSA et Fiat discutent d'un mariage puisque le projet avait été étudié plus tôt cette année avant que Fiat ne jette finalement son dévolu sur Renault. D'après Reuters, un conseil de surveillance devait se tenir ce matin chez PSA pour discuter de la fusion. L'État vient de réagir, il suit avec attention et ouverture les discussions et il sera particulièrement vigilant sur l'emploi et la gouvernance. L'autre information de la mi-journée, c'est la croissance française qui se stabilise trimestre après trimestre à 0,3%. L'INSEE prévoit dans sa première estimation pour le troisième trimestre une croissance donc à 0,3% comme au premier et au deuxième trimestre. La croissance a été tirée notamment par l'investissement des entreprises qui progresse de 0,9%. La consommation des ménages est en hausse de 0,3%. En Allemagne, le taux de chômage est toujours aussi bas, 5% au mois d'octobre, mais cela n'empêche pas Christine Lagarde, comme beaucoup d'autres, de s'inquiéter du ralentissement de l'économie allemande. La future présidente de la Banque Centrale Européenne appelle les Allemands à la relance grâce à leur excédent budgétaire. Christine Lagarde dit que l'Allemagne n'a pas fait les efforts nécessaires. L'ex-président du FMI ajoute que la BCE décidera plus tard de sa politique monétaire. À noter ce soir à 19h15 l'interview de Christine Lagarde chez nos confrères de BFM TV que vous pourrez suivre bien sûr en direct en simultané sur BFM Business. Et puis à noter également deux rendez-vous très importants pour l'économie américaine aujourd'hui. La croissance du PIB américain au troisième trimestre, première estimation à 13h30. Puis ce soir à 19h, ce sera la décision de la Fed sur sa politique monétaire avec une forte probabilité pour une troisième baisse des taux cette année. Du côté du Brexit, la Grande-Bretagne aura bien des élections législatives anticipées en décembre, le 12 décembre pour être précis, comme le souhaitait Boris Johnson. Le Parlement s'y était opposé lundi, mais il a fini par se ranger finalement hier du côté du Premier ministre britannique. Les Européens, pour leur part, ont donné leur accord pour reporter le Brexit au 31 janvier 2020 au plus tard. Dans l'actualité des entreprises, beaucoup de publications à vous donner à la mi-journée. D'abord Airbus qui, vous l'avez vu hier, a frappé un grand coup avec cette commande indienne à plus de 33 milliards de dollars. Sauf que l'avionneur annonce ce matin qu'il revoit à la baisse son objectif de livraison pour cette année. Airbus devrait livrer entre 880 et 890 avions commerciaux en 2019, mais ce sera finalement environ 860 appareils qui seront livrés. Le groupe dit être pénalisé par son usine de Hambourg qui accuse depuis deux ans des retards de production pour la 321. Volkswagen va vendre moins de voitures que prévu cette année. Les ventes devaient légèrement progresser, mais elles seront finalement identiques au volume de 2018. Cela étant dit, Volkswagen maintient son objectif annuel 2019 et le bénéfice opérationnel au troisième trimestre a bondi de 37%, notamment grâce au succès de ses SUV à forte marge. Total maintient lui aussi ses objectifs annuels, malgré un recul de 29% de son bénéfice au troisième trimestre. La production d'hydrocarbures du groupe a pourtant atteint son plus haut historique, mais Total paye un recul du Brent de 18% sur un an, et des prix du gaz en baisse de 55% en Europe et en Asie. Les mois passent et le cauchemar Monsanto continue d'enfler pour Bayer. Le nombre de plaintes déposées aux États-Unis contre l'herbicide est passé de 18 400 procédures à fin juillet à 42 700 au 11 octobre. Jusqu'ici, Bayer a été condamné trois fois dans l'affaire Monsanto, mais la justice américaine a nettement revu à la baisse à chaque fois le montant des condamnations. Le groupe confirme malgré tout ses objectifs annuels. Et puis un mot de série pour finir, puisque la série phénomène Game of Thrones aura bien une suite. suite, ou plutôt un préquel comme on dit, c'est-à-dire une suite qui se passe avant les événements qu'on connaît déjà. Pas de date de sortie pour ce House of Dragon annoncé hier par Warner, mais le studio américain a quand même donné toutes les infos pour son service de streaming HBO Max. Lancement en mai 2020 pour $14,99 par mois. C'est le triple de ce que demande Apple qui lui lance son service de streaming ce vendredi. BFM Business, il est midi 5. On file sur les marchés à la mi-journée. Le CAC 40 est à nouveau au plus haut de l'année, même au plus haut depuis 2007. Fin 2007 pour être précis, gagne 0,29% à 5756 points. L'euro dollar gagne un tout petit peu de terrain, plus 0,12%. Un euro s'échange pour $1,1124.
Merci Thomas, on se retrouve tout à l'heure à 12h30 pour le rappel des titres de l'économie. Tout de suite, c'est la question du jour.
BFM Business, l'heure H, la question du jour.
La France peut-elle résister au ralentissement économique mondial? C'est la question du jour avec Denis Ferrand, directeur général de Rexecode. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en plateau avec nous. La France, pour l'instant, confirme sa bonne résistance, relative résistance, on va dire, plus 0,3% pour le PIB au troisième trimestre, selon les chiffres qui ont été publiés ce matin par l'INSEE. C'est en ligne avec le consensus et ça confirme notamment que la France résiste mieux que l'Allemagne, qui, elle, souffre face notamment à la guerre commerciale. Croissance de 0,3%. Donc au troisième trimestre, au même rythme depuis le début de l'année. Ça donne l'impression au global que la France est relativement protégée à ce qui se passe au niveau mondial, mais est-ce que c'est vraiment le cas?
Oui, c'est vrai que la France s'en tire bien dans le concert européen. C'est vrai qu'à 0,3 de croissance, au regard de ce que les Allemands afficheront prochainement, probablement un recul de l'activité après avoir déjà reculé au deuxième trimestre. C'est vrai que c'est une performance que l'on peut saluer. Mais c'est une performance aussi un petit peu en trompe-l'œil, puisque pourquoi sommes-nous moins sensibles au commerce extérieur? C'est aussi parce que globalement, nous sommes relativement moins ouverts que ne le sont nos partenaires européens, que ne l'est l'Allemagne en particulier. C'est aussi parce que nous avons un poids du secteur industriel qui épouse toujours les mouvements cycliques, qui les amplifie, ces mouvements cycliques. Eh bien, ce poids du secteur industriel est quand même beaucoup plus faible. Donc, si vous voulez, c'est un peu cette résilience, c'est un peu la marque, c'est un peu le contre-coup de ce qui, en période de croissance normale, est plutôt une faiblesse. Et en réalité, la France, c'est comme toujours, elle baisse moins que ne le fait l'ensemble de l'économie européenne quand la conjoncture mondiale est morose. Mais en revanche, elle accélère aussi beaucoup moins quand la croissance mondiale est beaucoup plus favorable.
Derrière ce chiffre de 0,3% de croissance, on va regarder, puisqu'il y a un changement de fond qui est en train de s'opérer. La consommation des ménages est en passe de redevenir le principal moteur de la croissance, alors que depuis 3 ans, elle était, cette croissance, davantage tirée par l'investissement. Qu'est-ce qui explique ce changement?
C'est vrai que c'est tout à fait spectaculaire. C'est vraiment un mouvement qui ne s'est pas tellement vu jusqu'à présent. Mais quand vous regardez depuis 3 ans, l'investissement explique la moitié de la croissance qui s'est observée en France. Alors que l'investissement ne fait même pas un quart du PIB. Et pourtant, il a fait la moitié de la croissance. À l'inverse, la consommation était beaucoup moins au rendez-vous. Alors, on a l'impression qu'il y a une inversion de ces moteurs qui est en train de s'effectuer. Plusieurs postes de l'investissement sont en voie de ralentissement. On le voit notamment quand on interroge les chefs d'entreprise industriels. Bien, ils nous disent, par exemple, bien que l'utilisation de leur capacité de production est aujourd'hui un petit peu plus faible, donc il y a moins d'incitations techniques à investir parce que j'ai un appareil de production qui est saturé. Quand vous interrogez aussi les producteurs de biens d'équipement, eh bien ils disent que les commandes sont en train de ralentir. Et quand vous interrogez les industriels, enfin les acteurs des travaux publics, ils vous disent que la demande est en train de fléchir, est en train de ralentir. Donc cette surdétermination de la croissance par l'investissement est probablement en train de s'atténuer, mais à l'inverse, eh bien, avec les mesures des gilets jaunes qui ont dans un premier temps soutenu l'épargne, mais qui progressivement se diffusent dans la consommation, eh bien, cette dépense des ménages est en train de prendre le relais.
Alors, néanmoins, sur l'investissement, l'environnement de taux est toujours favorable à l'investissement. Il permet aux entreprises d'investir à faible coût.
Oui, tout à fait. Il le permet aux entreprises, il le permet aussi aux ménages. Et quand on voit, il y a par exemple, les promoteurs disent que la demande des ménages pour de l'investissement est vraiment en accélération, quand même assez sensible. Donc on aura encore de l'investissement des ménages, probablement un peu moins du côté des entreprises, parce qu'on va retrouver la trace de la situation de l'économie mondiale, une économie mondiale qui ralentit, ça n'est quand même pas quelque chose de propice, ça n'est pas un contexte qui est propice pour une accélération des dépenses d'investissement des entreprises. Les taux, ça n'explique pas tout.
La consommation des ménages qui est en passe de redevenir le principal moteur, c'est un petit peu un retour à la normale, puisque traditionnellement, l'économie française est surtout tirée par la demande intérieure. Dans le contexte actuel, c'est plutôt une bonne nouvelle. Cette demande intérieure, elle est moins sensible par définition aux facteurs internationaux comme la guerre commerciale, même si il y a quand même une porosité.
Oui, c'est vrai. Et surtout, il faut regarder un peu les sous-jacents de cette demande intérieure, de cette demande de consommation. Vous avez certes toutes les mesures fiscales qui contribuent fortement à soutenir le pouvoir d'achat des ménages. Hein, sur l'année 2019, c'est quand même assez sensible. On va avoir une progression du revenu des ménages qui sera nettement supérieure à la croissance du PIB sur l'année 2019. Et donc, c'est normal qu'on en retrouve une partie dans la consommation.
Cela dit, tout ne va pas dans la consommation. On peut aussi constater, on l'a vu, hein, une augmentation des réserves,
de l'épargne. Le taux d'épargne a plutôt augmenté, et quand on interroge les ménages, eh bien, ils nous disent qu'il y a encore une opportunité à épargner dans ce contexte. Donc, on ne va pas avoir de baisse forte du taux d'épargne. Mais en revanche, les ménages, ce qu'ils disent, c'est qu'ils voient aujourd'hui des opportunités à faire des achats importants assez marqués. Et donc, on a plutôt devant nous, effectivement, cette accélération de la consommation. Maintenant, est-ce que c'est la production qui en bénéficie ? Je suis très vigilant sur la dynamique des importations. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a quand même une partie de fuite à l'importation, si vous voulez, qui s'effectue, de cette stimulation, de cette consommation additionnelle, eh bien, n'est pas forcément captée par des producteurs locaux, elle l'est peut-être aussi, et de plus en plus, par des importations.
L'acquis de croissance, fin septembre, était de 1,2%, c'est-à-dire que si on avait une croissance nulle au quatrième trimestre, on serait à plus 1,2% en fin d'année. L'objectif du gouvernement de 1,4% pour 2019, finalement, ne semble pas hors de portée.
Celui de 2019, le chiffre de 2019 est quasiment joué. Quand vous connaissez les trois premiers trimestres, vous pouvez à peu près imaginer ce que va être l'ensemble de l'année. Donc, sauf si les chiffres sont révisés, parce qu'il y a toujours de la révision qui intervient, on devrait faire 1,3% de croissance. Donc, ce qui était d'ailleurs la prévision de Rexecode depuis déjà un an et demi. Donc, on a une prévision qui est 1,3 ou 1,4. Ça ne change pas grand-chose du point de vue des recettes fiscales. Et d'une manière générale, la prévision qui est faite aussi pour l'année 2020, qui est désormais beaucoup plus en interrogation. La prévision pour 2020, qui est de 1,4 pour le gouvernement, elle est aussi de l'ordre de l'atteignable.
Qu'est-ce qui pourrait faire dérailler la croissance ? On sait que la France est moins exposée que l'Allemagne au commerce mondial, mais elle est particulièrement exposée au Brexit.
Oui, elle est exposée au Brexit, donc ça c'est vrai que c'est un facteur, c'est un aléa important. Si la conjoncture allemande se dégrade encore, eh bien c'est un impact qui peut être encore plus important que ne peut l'être le Brexit. L'Allemagne est quand même notre premier partenaire, on fait 15% de nos exportations à destination de l'Allemagne, c'est un impact assez important. On ne voit pas d'amplification du ralentissement, mais c'est un point de vigilance important. Et d'une manière générale, c'est l'ensemble du contexte mondial qui est quand même moins porteur aujourd'hui. On ne voit pas de fort fléchissement. Aujourd'hui, il n'y a pas d'amplification du ralentissement, nous semble-t-il, en prévision. Mais on est sur un rythme qui est au total un rythme assez modeste. Mmh. On fait 1% de croissance en rythme annualisé, on va faire 1,3% sur l'ensemble de l'année. Eh bien, c'est à peu près notre potentiel de croissance, c'est le rythme auquel l'économie française est en capacité de croître. Et pour autant, eh bien, on est toujours avec 8% de chômage. Donc on voit bien qu'on a toujours des défis extrêmement importants qui sont peut-être moins de nature conjoncturelle, mais qui sont plutôt de nature de dynamique intrinsèque de la consommation que l'on a du mal à faire réaccélérer durablement.
Un chiffre qui devrait alimenter notre optimisme, les défaillances d'entreprises sont au plus bas depuis 12 ans, depuis 2007. 10 500 défaillances au troisième trimestre, c'est un recul de 6,4% par rapport au T3 2018. C'est une bonne nouvelle.
Oui, tout à fait. Non, c'est vrai que la sinistralité des entreprises a fortement reflué au cours de l'année 2019. N'oublions pas quand même que l'année 2019 est une année assez particulière d'un point de vue de trésorerie des entreprises, et c'est quelque chose qui a pu aider à passer à un cap de ralentissement de la croissance. La trésorerie des entreprises, elle a été soutenue par cette année tout à fait exceptionnelle où vous avez à la fois le CICE au titre de 2018 qui est versé et le nouvel allègement de charges qui est intervenu au début de l'année et amplifiée au 1er octobre, qui ont été des facteurs de soutien des conditions d'exploitation, enfin du compte d'exploitation des entreprises.
Événement important sur notre agenda pour cette fin de semaine. Christine Lagarde va prendre les commandes de la BCE, ce sera vendredi. Ce matin, elle a déclaré que l'Allemagne n'avait pas fait les efforts nécessaires en matière de relance budgétaire. Deux commentaires. D'abord sur la forme, c'est une vraie rupture de ton par rapport à Mario Draghi. Draghi n'aurait jamais annoncé publiquement quelque chose comme ça.
Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est dans la lignée de ce qu'elle disait quand elle était au FMI.
D'ailleurs, ça ressemble plus à une déclaration de présidente du FMI que de présidente de Banque Centrale.
Tout à fait. La Banque Centrale, c'est quand même la Banque Centrale de la zone euro. Et donc, on ne s'exprime pas sur des cas particuliers. Ce dont, effectivement, Mario Draghi s'était toujours méfié fortement au cours des dernières années. Donc, est-ce que c'est un changement de ton qui sera durable? Est-ce que c'est simplement un changement de costume qui est à effectuer entre présidente, responsable du FMI et présidente de la BCE?
Ça, c'est pour le ton. Mais sur le fond, lorsque Christine Lagarde dit que l'Allemagne n'a pas fait les efforts nécessaires en matière de relance budgétaire, elle dit finalement à voix haute ce que beaucoup de dirigeants européens ont déjà dit.
L'Allemagne est dans une situation où elle connaît aujourd'hui une récession et où elle va afficher en 2019 un excédent budgétaire à peu près du même niveau que celui qu'elle avait en 2018. Donc l'Allemagne, pour l'instant, a choisi de ne pas compenser l'impact négatif du commerce extérieur par une relance qui lui serait propre. Eh bien, c'est le choix allemand qui est quand même de plus en plus vertement critiqué, y compris par des économistes à l'intérieur de l'Allemagne.
Un dernier commentaire, Christine Lagarde invite les gouvernements à mettre en place des mesures de relance budgétaire. Alors, elle n'invite pas les gouvernements directement à s'endetter. Elle dit que ceux qui sont en situation d'excédent doivent mettre en place des mesures de relance budgétaire. Mais on imagine bien que certains gouvernements qui ne sont pas en situation d'excédent vont surfer sur cet appel.
Mais c'est vrai qu'on doit décomposer, on doit séparer l'analyse que l'on peut faire pour l'Allemagne de celle qui sont de l'analyse que l'on peut faire pour les économies qui sont en situation de déficit budgétaire. L'Allemagne a les possibilités de faire de la relance. Quand aujourd'hui, et c'est le cas de la France, vous êtes dans une situation où vous ne réduisez pas votre déficit structurel, où vous êtes en dehors des clous européens pour ce qui concerne l'évolution de votre déficit structurel des comptes publics, eh bien votre marge de relance est quand même, sinon faible, probablement négative ou nulle.
Merci beaucoup Denis Ferrand, directeur général de Rexecode.
BFM Business, midi, leur H. L'invité.
Airbus vient de signer une gigantesque commande, l'une des plus importantes jamais enregistrées par l'avionneur européen. La compagnie indienne low-cost Indigo a commandé 300 Airbus de la famille des 320 Neo pour un montant de 33,2 milliards de dollars. C'est le prix catalogue des A320 nouvelle génération, mais également des A321, c'est-à-dire la version rallongée de cet appareil, et des A321 XLR capables de parcourir de très longues distances jusqu'à 8700 km sans escale. On va en parler avec Yann Kochenek, rédacteur en chef à Air et Cosmos. Bonjour.
Bonjour.
Airbus engrange les commandes, mais on l'a appris ce matin, la production, elle, a un petit peu du mal à suivre. Le groupe a revu à la baisse son objectif de livraison pour 2019. Ce sera autour de 860 avions commerciaux, alors que l'objectif initial était de 880 à 890 livraisons. Ça pose une question assez claire. Est-ce que Airbus est capable d'accélérer ses cadences de production pour faire face à ces énormes succès commerciaux?
Alors, l'objectif affiché, c'est en effet de monter progressivement en cadence et de passer à 63, voire même 70 à un horizon de 3 ans. Reste entre l'objectif et la réalisation de cet objectif, il y a parfois un décalage et Airbus y est confronté. Quand vous avez autant de travail, vous êtes obligé de vous organiser de façon très très pointue, et manifestement c'est pas encore le cas. Mais bon, tout le job de Guillaume Faury va être justement d'aligner toutes les parties concernées pour justement satisfaire cet objectif.
Alors, d'autant que ça ne concerne pas qu'Airbus, puisque l'avionneur européen comme Boeing d'ailleurs dépend énormément des sous-traitants pour produire ces appareils. Est-ce que la filière aéronautique française et européenne est suffisamment dimensionnée pour faire face à un tel succès commercial?
Bien, c'est une bonne question. C'est ce que l'on nous dit régulièrement. Et il est clair que le problème de la sous-traitance est une problématique qui a été évoquée dès le départ. Ça fait des années qu'on en parle. À chaque fois, on nous a expliqué que cette filière de sous-traitance s'organisait, qu'on l'a poussée à s'organiser pour être plus performante, que des résultats avaient été obtenus. Manifestement, c'est pas encore suffisant. Mais vous savez, la production d'un avion, c'est une chaîne d'acteurs. Donc, il est difficile de pointer du doigt un acteur en particulier. Si vous voulez, il y a plutôt certainement des couacs au niveau de toute la chaîne, que ce soit chez Airbus ou chez ses sous-traitants. Et par conséquent, on arrive un moment où on est au pied du mur et on n'arrive pas à livrer dans les temps prévus.
Alors, on parle de cadence de production quand même assez considérable. Airbus, vous l'avez dit, prévoit d'augmenter la cadence de production de la famille des A320 à 63 exemplaires par mois. Ça représente un peu plus de 2 appareils par jour en comptant les week-ends. C'est déjà considérable.
Tout à fait. Donc, il y a bien sûr les moyens humains, les moyens existants, et puis il y a la mise en place d'un outil de production automatisé avec des robots qui va permettre d'accélérer le process d'industrialisation. Mais bon, ces robots sont encore en phase d'essai, ils sont pas encore complètement opérationnels. Certes, certains travaillent déjà, je parle des robots, travaillent déjà en bourre, mais maintenant il faut appliquer la formule à l'ensemble du système industriel Airbus.
On va parler de ce méga contrat qu'Airbus a annoncé hier avec la compagnie indienne low cost Indigo. 300 Airbus de la famille des A320 Neo, montant aux environs de 33 milliards de dollars, prix catalogue, ça dépend des options. Et surtout, dans l'aéronautique, on ne connaît jamais le prix réel, la facture réelle, puisque c'est toujours communiqué en prix catalogue. Vous qui avez une expérience de ce secteur, pour une méga commande comme ça, quelle peut être le montant réellement payé par
la
compagnie?
Ça peut aller à 40% de rabais.
C'est-à-dire pratiquement la moitié.
Pratiquement la moitié.
Un peu plus de la moitié. Indigo va devenir le plus gros client de l'Airbus A320 Neo. C'est une compagnie low cost, mais même une compagnie ultra low cost.
Oui, enfin, ultra low cost, non, je pense pas.
C'est pas la plus sévère en matière de réduction de coûts, mais elle est plus sur le modèle de Ryanair que sur le modèle de Vueling, par exemple.
Nous sommes bien d'accord. Alors, c'est vrai que Indigo devient le plus gros client. Low cost ou pas low cost, ils ont quand même, avec cette commande, 830 Airbus. Ils ont commandé, dans toute leur jeune histoire, 830 avions. Ils dépassent les grands loueurs, que sont JCAS ou LFC. Ils dépassent même AirAsia, qui avait fait sensation aussi avec des contrats d'importance. Donc AirAsia est même maintenant loin derrière, puisque c'est 592 commandes auprès d'Airbus. Donc cette jeune compagnie indienne, qui a fait ses preuves, attention, ça fait maintenant depuis un certain temps qu'elle opère, est devenue le plus gros client avec ce contrat d'Airbus, de toute l'histoire d'Airbus.
Vous avez mentionné...
Tout modèle confondu.
Excusez-moi, vous avez mentionné AirAsia. Au printemps, Airbus avait déjà aussi reçu une commande de 290 A320 Neo de la part de compagnies chinoises. Ça nous confirme clairement que la croissance, maintenant, elle est en Asie.
La croissance est en Asie et surtout dans ces deux locomotives, ces deux marchés intérieurs énormes que sont l'Inde, mais aussi la Chine. Bon, alors c'est vrai qu'on se focalise sur la commande d'Indigo, qui est importante, mais les compagnies chinoises nous ont habitués à des commandes assez gigantesques aussi dans le passé.
Est-ce qu'on peut dire que le dynamisme commercial de l'A320 Neo, c'est aussi la conséquence des difficultés du 737 MAX de Boeing?
Dans ce cas précis, non. Indigo, dès le départ, a joué la carte Airbus A320. On a commandé 100, a bâti son réseau, s'est développé et maintenant arrive dans une nouvelle phase de croissance qui fait qu'elle a encore besoin d'avions. Elle a déjà 300 avions à réceptionner, faut pas oublier. Donc ça fait maintenant plus de 600 avions avec cette commande à réceptionner. Il est clair que le calendrier des livraisons de cette nouvelle commande de 300 avions n'est pas précisé. Donc on voit bien que c'est une commande dont les effets pour Airbus se produiront après l'année 2025.
En tout cas, la réussite d'Airbus contraste très nettement avec les déboires de son concurrent américain Boeing. On le rappelle, les 737 MAX sont toujours cloués au sol depuis le mois de mars après 2 accidents qui ont causé la mort de 346 personnes. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui que cet appareil ne soit jamais remis en service?
C'est une question très difficile. Tout ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que Boeing s'est organisé pour remettre cet avion en service, a apporté les modifications, a fait travailler les autorités de certification européennes, brésiliennes, chinoises, pour décortiquer les dysfonctionnements qu'il y avait pu avoir, les impliquer dans le processus de remise en service. Maintenant, tout dépendra aussi de la confiance des pilotes, du retour à la confiance des pilotes et aussi du retour à la confiance des passagers.
Alors ça, c'est peut-être même l'essentiel. S'il est remis en service, est-ce que les compagnies aériennes accepteront d'en acheter davantage? Ça, c'est une première question. Mais au final, ce sont les passagers qui décideront ou pas de remonter dans ces appareils.
Tout à fait, d'autant qu'il y a un phénomène assez fort vis-à-vis du 737 MAX. Vous savez, il y a des 737-800 qui sont équipés des fameuses ailettes pas très particulières au MAX, parce que Boeing, justement, pour tester ces ailettes, les avait installées sur des avions d'ancienne génération pour en analyser les effets aérodynamiques. Et il y a des phénomènes de panique, puisque les gens pensent que c'est un MAX qui arrive et que dans un MAX qu'ils vont embarquer, alors que c'est pas du tout ça. Donc ça montre bien quand même qu'il y a une défiance du consommateur, du passager, vis-à-vis de cet avion.
Le MAX est une évolution du 737, c'est l'avion le plus vendu de l'histoire de l'aéronautique.
C'est la quatrième évolution.
Un avion qui a fait ses preuves, néanmoins, c'est un avion de conception ancienne. Est-ce que pour Boeing, la porte de sortie, ce ne serait pas d'accélérer le développement du successeur du 737 ?
Certes, mais développer un successeur coûte de l'argent. Il faut au moins mettre 12 milliards de dollars sur la table. Et en même temps, vous faites une croix sur un carnet de commandes de 5000 avions qui en vaut 10 fois plus. Donc là, vous êtes, je veux dire, vous avez droit dans le mur. Donc il est impossible de développer un successeur du 737 en un temps si court. Même s'ils ont travaillé sur le sujet les années passées, il y a toujours, si vous voulez, une période de temps entre le lancement, les essais,
la certification,
etc. Il y a un temps qui fait que non, ils peuvent pas, absolument pas.
D'autant qu'à vouloir aller trop vite, on risque de commettre des erreurs, et c'est justement l'une des questions qui a été posée hier au patron de Boeing. Il a été auditionné par une commission du Sénat américain, et il doit être entendu de nouveau cet après-midi, mais cette fois-ci par la Chambre des représentants. Il a été mis en difficulté et a dû reconnaître des erreurs.
Oui, tout à fait. De toute façon, ça ne pouvait pas être autrement. Il y a quand même deux accidents en moins de 5 mois. Plusieurs centaines de morts, de victimes, des rapports d'enquête qui ont montré la défaillance du système logiciel MCAS, des dysfonctionnements dans les relations entre Boeing et les autorités de certification américaines. Donc il est clair qu'il ne pouvait être que sur le grid. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est que tous ces éléments mis en valeur, mis en lumière par les rapports, les différents rapports d'enquête accident, rapport du groupe d'experts qui a été créé à la demande de la FAA, plonge le monde aéronautique dans la sidération. Il y a manifestement une accumulation d'erreurs humaines chez Boeing, chez le constructeur, et ou des dysfonctionnements graves dans la chaîne de décision, ou alors les deux à la fois. Mais c'est ça qui va être intéressant d'analyser, parce que on voit il y a un capitaine là très prolixe en courriel, mais pour l'instant, ce sont des courriels qu'il partage avec des collègues, mais je n'ai pas encore vu le courriel de ce capitaine qui, suite à une séance dans un simulateur très mouvementé, hein, puisqu'il dit que c'était vraiment l'enfer, alerte le chef du programme 737 MAX en disant « John, Robert, je demande une réunion d'urgence, on a un gros souci. »
Et c'est ignoré. Hier, le patron de Boeing a dit qu'il n'avait pris connaissance que très récemment de ces mails.
J'attends de voir ce courriel d'alerte.
Une dernière question. Est-ce que ces erreurs dans la conception du 737 MAX auraient pu être commises par d'autres avionneurs, notamment par Airbus ? Est-ce que ce n'est pas le résultat de la concurrence et des énormes enjeux commerciaux qui mettent toujours davantage de pression sur les ingénieurs pour aller très vite, quitte parfois à prendre des risques en matière de sécurité ?
Bon, il est clair qu'avec le lancement de la 320neo, Boeing était sous pression. Mais il ne faut pas quand même oublier que toutes ces femmes et ces hommes, qu'ils soient américains, européens, brésiliens, chinois, ces hommes de l'aéronautique, ont dans leur gène, dans leur ADN, c'est dans leur formation, dans leur culture, la sécurité comme priorité absolue. Donc, si vous voulez, pression commerciale ou pas, s'il y a un souci, eh bien, on prend le temps qu'il faut pour le résoudre. Donc, on n'est plus à 1 mois ou 3 mois près. Je veux dire, Airbus a lancé son A320neo, Boeing le lancera quelques mois plus tard. Sincèrement, Boeing n'était pas en situation telle qu'il fallait faire l'impasse sur 3 mois de travail supplémentaire. Donc, j'attends vraiment, moi, ce fameux courriel qui alerte le patron du programme 737 MAX en disant, suite à une séance de simulateur,
On a un souci majeur. Merci beaucoup Yann Kochenek. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de Air et Cosmos. Dans un instant, nous parlerons du projet de fusion entre Fiat et PSA. Les discussions ont été confirmées ce matin. Mathieu Courtecuisse, président de SIA Partners, nous livrera son analyse dans quelques minutes. Restez avec nous.
BFM Business, midi, l'heure H. Stéphane Pedrazzi.
Midi et demi sur BFM Business. Merci de nous rejoindre si c'est le cas. On fait un nouveau point sur l'actualité économique à la mi-journée avec vous, Thomas Asportas.
Mathieu Courtecuil sera votre invité après le journal. Mais d'abord, bien entendu, l'information de la mi-journée, ce sont ces discussions officialisées entre PSA et Fiat Chrysler et qui donneraient naissance, donc si c'est le cas, au numéro 4 mondial de l'automobile. L'information, vous l'avez vu, était parue dans la presse hier soir. Du coup, les deux groupes ont décidé ce matin de confirmer que des discussions pour une fusion sont bel et bien en cours. Ce n'est pas la première fois que PSA et Fiat discutent d'un mariage puisque le projet avait été étudié plus tôt cette année, avant que Fiat ne jette finalement son dévolu sur Renault. D'après Reuters, un conseil de surveillance devait se tenir ce matin chez PSA pour discuter de la fusion. L'État réagit il y a quelques minutes. Bercy suit avec attention et ouverture les discussions et il sera particulièrement vigilant sur l'emploi et la gouvernance. Fin de citation. L'autre information de la mi-journée, c'est la croissance française qui se stabilise trimestre après trimestre à 0,3%. L'INSEE prévoit en effet dans sa première estimation pour le troisième trimestre une croissance donc à 0,3 points, comme au premier et au deuxième trimestre. La croissance a été tirée notamment par l'investissement des entreprises qui progresse de 0,9%. La consommation des ménages, elle, est en hausse de 0,3 points. En Allemagne, le taux de chômage est toujours aussi bas, à 5% au mois d'octobre, mais cela n'empêche pas Christine Lagarde, comme beaucoup d'autres, de s'inquiéter du ralentissement de l'économie allemande. La future présidente de la Banque Centrale Européenne appelle les Allemands à la relance grâce à leurs excédents budgétaires. Christine Lagarde dit que l'Allemagne n'a pas fait les efforts nécessaires. L'ex-présidente du FMI ajoute que la BCE décidera plus tard de sa politique monétaire. À noter ce soir à 19h15, l'interview justement de Christine Lagarde chez nos confrères de BFM TV que vous pourrez suivre en simultané sur BFM Business. Et puis à noter également deux rendez-vous très importants pour l'économie américaine aujourd'hui. La croissance du PIB américain au troisième trimestre, première estimation, ce sera à 13h30. Puis ce soir à 19h, la décision de la Fed sur sa politique monétaire, avec une forte probabilité pour une troisième baisse des taux cette année. Du côté du Brexit, la Grande-Bretagne aura bien des élections législatives anticipées en décembre, le 12 décembre en l'occurrence, comme le souhaitait Boris Johnson. Le Parlement s'y était opposé lundi, mais il a fini par se ranger hier du côté du Premier ministre britannique. Les Européens, pour leur part, ont donné leur accord pour reporter le Brexit au 31 janvier 2020 au plus tard. Dans l'actualité des entreprises, beaucoup de publications à vous donner ce matin. Et d'abord Airbus. Airbus qui a frappé un grand coup hier avec cette commande indienne à plus de 33 milliards de dollars. Sauf que l'avionneur annonce ce matin qu'il revoit à la baisse son objectif de livraison pour cette année. Airbus devait livrer au départ entre 880 et 890 avions commerciaux cette année, mais ce sera finalement environ 860 appareils qui seront livrés par Airbus. Le groupe dit être pénalisé par son usine de Hambourg qui accuse depuis 2 ans des retards de production pour la 321. Volkswagen va vendre moins de voitures que prévu cette année. Les ventes devaient légèrement progresser, mais elles seront finalement identiques à celles de l'année dernière. Cela étant dit, Volkswagen maintient ses objectifs annuels 2019 et le bénéfice opérationnel a bondi au troisième trimestre de 37%, notamment grâce au succès de ses SUV, des voitures à forte marge. Total maintient lui aussi ses objectifs annuels malgré un recul de 29% de son bénéfice au troisième trimestre. La production d'hydrocarbures du groupe a pourtant atteint son plus tôt historique, donc au troisième trimestre, mais Total paye un recul du Brent de 18% sur un an et des prix du gaz en baisse de 55% en Europe et en Asie. Les mois passent et le cauchemar Monsanto continue d'enfler pour Bayer. Le nombre de plaintes déposées aux États-Unis est passé de 18 400 procédures à fin juillet à 42 711 octobre. Jusqu'ici, Bayer a été condamné 3 fois dans l'affaire Monsanto, mais la justice a nettement revu à la baisse à chaque fois le montant des condamnations. Le groupe Bayer confirme malgré tout ses objectifs annuels. Et puis un mot de série pour finir, puisque la série phénomène Game of Thrones aura bien une suite, ou plutôt un prequel, comme on dit, c'est-à-dire une suite, mais qui se passe avant les événements qu'on connaît déjà. Pas de date pour sortie pour ce House of the Dragon annoncé hier par Warner Media. Mais le studio américain a quand même donné toutes les infos pour son service de streaming qui s'appelle HBO Max. Lancement en mai 2020 pour $14,99 par mois. C'est le triple de ce que demande Apple pour son service de streaming qui lui est lancé après-demain, ce vendredi, le 1er novembre. BFM Business, midi 36, on retourne sur les marchés à la mi-journée qui sont dans le vert. Nouveau plus haut annuel, on gagne 0,28% à 5 756 points. L'euro-dollar est stable, 1 euro s'échange pour 1,08 $.
Merci beaucoup Thomas Asportas. On va parler dans un instant du projet de fusion entre Peugeot, Citroën et Fiat Chrysler avec notre invité. Reste avec nous.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité.
Coup de théâtre dans le secteur automobile. 6 mois après l'échec du projet de fusion avec Renault, Fiat Chrysler négocie désormais un rapprochement avec PSA Peugeot Citroën. Les deux constructeurs ont confirmé ce matin l'existence de négociations, tout en précisant bien sûr qu'il n'y avait à ce stade aucune garantie que les discussions aboutissent à un accord. Le mariage des deux groupes, s'il aboutit, donnerait naissance au 4e constructeur automobile mondial en nombre de véhicules vendus, 8,7 millions l'an dernier et un chiffre d'affaires cumulé de 184 milliards d'euros. C'est colossal. Avec nous, Mathieu Courtecuisse, président fondateur de SIA Partners. Bonjour.
Bonjour.
J'ai parlé de coup de théâtre, puisque cette annonce intervient moins de 6 mois après l'échec du projet de fusion avec Renault. Néanmoins, sur le fond, c'est pas une énorme surprise. C'est pas la première fois que John Elkann, le patron de Fiat, et Carlos Tavares, le patron de PSA, échangent. Et d'ailleurs, Carlos Tavares avait dit il y a quelques mois qu'il était ouvert à toute opportunité qui pouvait se présenter.
Oui, je crois qu'on est dans un contexte général en Europe où tout le monde discute avec tout le monde. Donc, bon, il y a quand même un nombre d'acteurs limité. Donc, à la fin, il y a un jeu de chaises musicales qui s'opère. Et donc, effectivement, même s'il y a eu des discussions à un moment donné, elles ont achoppé, elles sont revenues. Et donc, c'est pas vraiment un coup de théâtre. C'est logique d'un point de vue de la consolidation européenne de l'industrie automobile qui est plus que nécessaire.
Mmh. Est-ce que l'un des deux groupes a davantage besoin que l'autre de cette fusion? Est-ce que chacun y trouve son intérêt ou est-ce que l'un des deux va être clairement favorisé?
Je crois que si tout le monde discute avec tout le monde, c'est que d'abord tout le monde considère qu'il y a la discussion à tenir, parce que en fait on est face à un cliff, on va dire dans 5 ans ou 6 ans, l'industrie automobile européenne est face à une vraie difficulté qui est programmée, qui est inéluctable, et donc tout le monde est face à cette impasse là. Donc ce besoin de discussion, il émane de tous. Alors après on voit qu'effectivement Fiat semble peut-être plus enclin à discuter de façon officielle avec un certain nombre de groupes. Donc je pense qu'ils ont un impératif industriel en Europe qui est assez court terme, là où PSA ou même Renault avaient des besoins peut-être plus moyen terme, donc un peu plus de temps pour discuter. Mais ces 5 ans, c'est quand même peu dans l'industrie qui est vraiment sur du moyen long terme.
À l'international, cette fusion permettrait à PSA de revenir sur le marché américain, puisque Fiat Chrysler il détient des parts de marché importantes. En revanche, Fiat Chrysler lui a besoin d'un partenaire en Asie, et là sur ce point, on ne peut pas dire que Peugeot ait vraiment une position forte en Asie.
Non, je crois que là on va solder l'épisode chinois chez PSA à l'occasion de ce rapprochement, et je pense que le nouveau groupe formé se concentrer sur l'Europe et les États-Unis et aussi l'Amérique latine, qu'il ne faut pas oublier, qui est extrêmement importante. Mais je pense que l'aventure chinoise est plutôt derrière. L'enjeu pour PSA, c'est en effet face à cette fermeture ou programmée du marché chinois, c'est de se concentrer sur le marché américain sur lequel il était présent. Et pour Fiat Chrysler, l'enjeu, c'est de restructurer son appareil industriel en Europe. Là, c'est vrai que PSA vient avec un élément de track record, comme on dit, très important, puisque au profit de Carlos Tavares, il y a quand même la restructuration d'Opel. Et pour le rappeler, quand même, le groupe PSA, finalement, en très peu de temps, est passé d'un point d'équilibre à 2,6 millions de véhicules à 1,6 million. Aujourd'hui, le groupe génère des bénéfices à partir d'1,6 million.
Non, je vous en prie.
Donc c'est aussi, je pense, ce qui intéresse John Elkann, c'est d'avoir la possibilité de recruter un dirigeant qui est capable de conduire un programme de restructuration.
L'enjeu en Europe pour les deux constructeurs?
L'enjeu, on est toujours dans l'écosystème post-Dieselgate, c'est-à-dire qu'on a quand même un impératif écologique qui est maintenant bien clair, avec des normes restrictives, et puis c'est de faire évoluer dans une des groupes dans un marché atone d'un point de vue des volumes. Jusqu'avant, on a mentionné les résultats de Volkswagen qui en volume étaient un peu décevants. Donc le marché européen reste sous apnée, en fait. Donc il faut pouvoir restructurer avec un marché atone. C'est extrêmement difficile.
On peut pas s'empêcher évidemment de faire la comparaison avec le mariage qui aurait pu être célébré entre Renault, Nissan, Mitsubishi et Fiat Chrysler. Est-ce que cette fusion, si elle aboutit entre Peugeot et Fiat, aurait davantage de sens d'un point de vue industriel et commercial que celle qui aurait pu être scellée avec Renault?
Je pense que les deux projets avaient beaucoup de sens. La grosse différence, c'est que il y avait une gouvernance et aussi un je dirais, un patron à désigner qui n'était pas clair dans la dans le mariage entre Renault et Fiat. Donc là, c'est un petit peu différent puisqu'il semble que Carlos Tavares chaponnerait l'ensemble. Et puis il y avait un actionnariat aussi différent. Là, on a deux actionnaires familiaux qui sont derrière, donc un ADN plus proche, mais c'est aussi des actionnaires qui sont parfois plus exigeants que l'État, mais sous d'autres critères. Donc il faut qu'ils trouvent les moyens de discuter entre eux. Je pense que PSA est en bonne position d'un point de vue de la capitalisation boursière. Après, il faut remettre les choses en perspective. Aujourd'hui, Google, via Waymo, lance son service d'autopartage en véhicule autonome. Waymo, aujourd'hui, est valorisé 85 milliards, c'est-à-dire l'équivalent du groupe fusionné PSA-FCA. Donc, il faut bien comprendre ce qui est en train de se passer avec la révolution de l'autopartage, avec la révolution des véhicules autonomes et les défis technologiques qui sont posés d'un point de vue écologique.
Est-ce que la course au gigantisme est une obligation pour les constructeurs automobiles pour faire face aux énormes besoins en matière de R&D, pour faire face également, enfin en tout cas pour mettre en place une politique d'achat qui soit intéressante?
Oui, alors il y a déjà plein de façons de coopérer et ça existe déjà entre les différents groupes, mais en effet la taille compte en matière de l'industrie automobile pour rentabiliser les investissements lourds qui sont à réaliser. À noter également que FCA ces dernières années a plutôt coupé dans ses dépenses de R&D sur l'Europe, plutôt maintenu sur les États-Unis, mais sur l'Europe il y avait ça. Donc je pense que le mariage fait sens aussi de ce point de vue-là, avec une R&D assez dynamique du côté de PSA qui permet quand même de capitaliser sur des brevets qui ont déjà été déposés.
Ce sont pour l'instant des discussions, évidemment aucune garantie qu'elles aboutissent, mais selon des sources proches du dossier, il s'agirait d'une fusion entre égaux par échange d'actions. On sait par expérience que les fusions entre égaux, ça marche souvent pas, ou en tout cas difficilement.
Bah disons que en général c'est une opération de façade les fusions entre égaux. Là la réalité c'est les poids des actionnaires familiaux. Ben, donc et ils sont je crois que c'est ça la réalité qui est derrière. C'est pas tant de savoir si c'est l'ex bloc actionnarial Fiat par rapport à l'ex bloc actionnarial PSA qui prend le contrôle. Et bon, ils peuvent faire en plus quelques opérations financières pré-closing qui permettront d'équilibrer le jeu, mais le vrai sujet c'est l'équilibre entre les deux familles.
28%, hein, pratiquement, un peu plus même pour la famille Agnelli chez Fiat, et donc beaucoup plus évidemment que ce que la famille Peugeot détient chez PSA. Est-ce que le gouvernement français, qui, on s'en souvient, était à l'origine de l'échec entre Renault et Fiat Chrysler, le projet de fusion avorté, est-ce que le gouvernement est prêt, à votre avis, à faire des concessions? Est-ce que Bruno Le Maire, qui a été échaudé une première fois, cette fois-ci, va mettre de l'eau dans son vin?
Moi, si j'étais Bruno Le Maire, j'écouterais en boucle l'audition de Jean-Dominique Sénard au Sénat, où il explique que dans 5 ans, l'industrie automobile sera probablement en faillite en Europe. Donc, si on se restructure pas, à un moment donné, ça va coûter extrêmement cher. Donc, les concessions de court terme doivent être mises au profit d'une vision de moyen terme. Donc, c'est plutôt ce sur quoi le gouvernement français devrait se focaliser aujourd'hui.
Mais c'est aussi un exercice de communication politique. La famille Agnelli, premier actionnaire de Fiat, va devenir le premier actionnaire du nouvel ensemble, si c'est une fusion à 50-50.
Oui, John Elkann parle très bien français, il a étudié en France, donc je pense que il y a pas d'incompatibilité avec ça, puis on peut pas déclamer en longueur de temps qu'on est pour l'Europe et en même temps empêcher la construction d'un groupe européen.
Qui pour reprendre la tête de ce groupe? Alors on a lu dans la presse le nom de Carlos Tavares, évidemment c'est pas confirmé à ce stade. Est-ce que c'est une façon pour les Français de sauver les apparences?
Non, je crois que c'est simplement lié à un track record personnel qui est une restructuration réussie, comme je le mentionnais chez Opel, parce qu'il y a un enjeu de restructuration de l'industrie, enfin du périmètre industriel européen qui est extrêmement important. Puis en même temps, il y a un défi commercial aux États-Unis sur des véhicules d'un autre genre et sur lequel il y a un savoir-faire très important qui vient de Chrysler.
En cas de succès de l'opération, ça enterre définitivement toute possibilité de reprise des négociations avec Renault. On se dit qu'a priori, c'était pas dans les tuyaux, mais quand on voit la réaction en bourse sur le titre Renault qui est en baisse, on se dit que le marché peut-être y croyait encore un petit peu.
Il y croyait un petit peu, mais c'est surtout finalement, quelle est la perspective pour Renault dans ce contexte-là.
C'est la question.
Donc, effectivement, alors, on pourrait aussi opposer le fait que la bourse flambe sur les deux autres titres. Donc, on voit bien que le sens industriel est validé par les marchés et donc ça pose effectivement des questions très importante pour Renault. Et c'est ce qui avait aussi motivé, je pense, Jean-Dominique Sénard à l'époque d'enclencher les discussions avec Fiat. Parce que finalement, à la fin, ok, tout le monde discute avec tout le monde, mais il n'y a pas non plus 50 options qui sont sur la table. Donc la question aujourd'hui, c'est que ça remet vraiment Renault-Nissan dans une question vis-à-vis de l'alliance. Donc, et c'est une question qui reste quand même complexe et on le voit presque chaque semaine.
Le dossier n'est pas encore
bouclé. Voilà. Et donc ça laisse moins d'options stratégiques pour le groupe Renault-Nissan. Mais c'est finalement ce à quoi a joué le gouvernement, hein, c'est-à-dire en bloquant cette opération-là, il était très probable qu'une autre opération revienne. Donc ça pose vraiment des questions stratégiques lourdes pour Renault-Nissan, soit dans l'accélération de l'intégration de l'alliance, soit pour trouver d'autres partenaires.
Mmh. Et justement, quels seraient les partenaires les plus compatibles avec Renault ?
Bah, il y en a quelques autres. Je pense que Renault-Nissan, aujourd'hui, en tant qu'alliance, fait partie de quelques groupes de constructeurs à 10 millions. Il reste quelques acteurs qui sont à 2-3 millions de véhicules. Je pense que si le gouvernement a bloqué un rapprochement entre Renault-Nissan et Fiat, ça me paraît peu probable qu'il accepte un rapprochement avec un très gros. Donc ça veut dire qu'il y a plutôt d'autres acteurs de taille moyenne qui seraient en cible.
Volkswagen a revu à la baisse sa prévision de nombre de voitures vendues en 2019. Ça a été annoncé ce matin. Ce sera, nous dit le constructeur allemand, au même niveau que l'an dernier, alors qu'auparavant il tablait sur une légère croissance. Révision à la baisse en raison notamment de la guerre commerciale et du Brexit. On se dit qu'a priori les risques sont les mêmes pour les autres constructeurs, notamment pour les deux français.
Oui, alors on a évoqué déjà le caractère atone du marché européen qui reste quand même un peu dynamique sur la partie haut de gamme. Sur le marché de façon générale, les perspectives ne sont pas excellentes sur l'Europe. Donc les résultats de Volkswagen, étant donné la part de marché de Volkswagen, sont assez cohérents. Ce qui est intéressant aussi, ce que vous mentionnez, c'est le Brexit. Le Brexit pose quand même énormément de questions dans la restructuration de l'industrie automobile européenne. Et tous ces allers-retours autour du hard, soft Brexit, etc. sont des vrais problèmes pour l'investissement de moyen terme et qui vont commencer à sanctionner réellement l'industrie automobile sur le territoire anglais. Mais ça pose aussi des problèmes très concrets aux différents opérateurs. Parce que quel est l'avenir de ces usines ? Comment on investit pour aller vers l'industrie 4.0 dans ces usines ? Et donc ça pose question pour tout le monde.
Alors ça pose une question, on va parler du Brexit. Dans un premier temps, Peugeot a évidemment des usines en Grande-Bretagne à travers Opel. Comment est-ce que Peugeot peut gérer la situation en cas de hard Brexit ?
Bah, c'est comme un peu tout le monde, c'est assez complexe. Il faut quand même, enfin, si vous voulez, le hard Brexit, ça reste quand même un slogan. Derrière, il faut quand même regarder la réalité.
Il faut que la machine fonctionne encore.
Voilà. Je pense que la question, c'est plus sur les investissements à venir dans ces usines. Et c'est pas tant l'existence, c'est vraiment ce qui se passera par la suite et quelle est vraiment la vocation industrielle sur le plan automobile sur le territoire anglais.
Et l'autre question, c'est bien sûr la guerre commerciale. On l'a vu hein, quand Donald Trump avait menacé les Mexicains, que ça concernait évidemment beaucoup le secteur automobile, puisque bon nombre de voitures qui sont vendues aux États-Unis sont assemblées au Mexique. Et quand on est comme ça un groupe mondial avec des usines et des fournisseurs partout dans le monde, est-ce que les constructeurs automobiles font pas partie des entreprises les plus sensibles justement à cette guerre commerciale ?
Oui et non, il y a aussi la réalité, c'est que il va falloir investir dans des usines d'un nouveau genre. Il faut bien comprendre, et c'est la grève qu'il y a chez General Motors aussi en ce moment, c'est quel est l'emploi industriel dans cette filière de demain. Faut une industrie, un site industriel 4.0 dans l'automobile, c'est un poids divisé par 3 de la masse salariale dans la construction d'un véhicule. Donc, faut bien comprendre qu'il y a un enjeu de restructuration aussi lié à l'automatisation dans ces sites industriels. Et c'est plutôt un problème de localisation, puisqu'on peut localiser du coup aux États-Unis une usine 4.0. Ça posera pas de problème de compétitivité par rapport au Mexique, mais ça prend du temps pour le faire.
Vous parliez d'un cliff tout à l'heure pour l'industrie automobile. Qu'est-ce qui a précipité les choses ? Est-ce que c'est le Dieselgate ou est-ce que c'est simplement une prise de conscience plus globale des enjeux environnementaux ?
Non, je crois que le Dieselgate a joué vraiment un rôle extrêmement lourd. Le deuxième rôle, c'est plutôt les évolutions des usages. C'est pas tant la conscience environnementale de chacun qui monte dans une voiture, c'est juste la facilité d'usage en fait et la notion de propriété même des véhicules.
Mmh. On l'a vu, hein, les groupes, les géants de l'internet ont fait des incursions dans plusieurs secteurs. On le voit dans la finance et on en entend parler. C'est un serpent de mer, mais dans l'automobile, la voiture Apple, la voiture automatique de Google.
Oui,
enfin, beaucoup.
Oui.
À votre avis, c'est une vraie évolution du secteur automobile.
Bah, on va devoir passer par ces géants. Je le mentionnais juste à présent, à l'instant. Waymo, c'est 85 milliards de capitalisation boursière, donc le service de Google. Et ils lancent aujourd'hui leur service d'autopartage complet en voiture autonome à Phoenix. Faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le coût du service rendu sur un véhicule autonome en partage robot-taxi, c'est deux fois inférieur au coût d'un Uber. Donc on est sur une révolution à venir qui est extrêmement importante.
Et pourtant on voit les constructeurs européens, les constructeurs automobiles traditionnels sont relativement frileux et n'envisagent pas spécialement des formes de partenariat avec des géants de la tech.
Non, parce qu'ils considèrent qu'il y a un savoir-faire industriel au-delà du savoir-faire en termes d'intelligence artificielle et de software. Ben, on verra à la fin comment ça va se passer, mais tout le monde converge en réalité. Hein. Ces acteurs du software intègrent des chaînes industrielles. On le voit avec Tesla et les difficultés parfois rencontrées, mais les succès aussi qui se mettent en place. Et on voit aussi du côté notamment des opérateurs allemands, des constructeurs allemands, d'énormes investissements dans la maîtrise de la couche d'intelligence artificielle, dans l'utilisation de la 5G. Et la 5G est un jalon extrêmement important dans le déploiement de ces nouveaux véhicules.
J'aimerais qu'on parle pour terminer des actionnaires. Vous savez, sur cette chaîne, on parle beaucoup, beaucoup d'argent. D'abord, un commentaire du point de vue de l'actionnaire sur ce projet de fusion Peugeot-Fiat. Est-ce que chacun y trouverait son compte si c'est une fusion d'égal à égal? Il y aura forcément des actionnaires qui vont se sentir un petit peu lésés.
Oui, alors là, je ne sais pas exactement comment vont se préciser les opérations, mais il y aura peut-être des dividendes versés en amont pour équilibrer les choses, etc. Moi, j'ai le sentiment que c'est plutôt une bonne affaire pour tout le monde. Et en réalité, comme sur deux groupes familiaux qui sont derrière, en général, ils essaient de faire des choses plutôt intelligentes.
L'autre question concernant les actionnaires, bien sûr, c'est la performance du secteur automobile. On l'a vu, ils ont été particulièrement massacrés en bourse sur une période assez récente.
Oui, parce que c'est les perspectives de marché que j'évoquais. Il y a aussi le ralentissement du marché chinois qui n'était pas forcément totalement anticipé, donc qui pèse sur les perspectives des constructeurs automobiles en bourse. Donc, il y aura une prime à ceux qui se rapprochent et ceux qui se restructurent. Ça me paraît relativement évident.
Vous pensez que le marché chinois va se reprendre ?
Oui. Je pense que c'est un petit moment de difficulté, mais il y a une roadmap qui est extrêmement claire d'un point de vue du véhicule électrique notamment, et c'est une nécessité d'un point de vue écologique pour eux, et je pense que là, il n'y a pas de doute.
Et donc, puisqu'on parlait des actionnaires, c'est un secteur dont il faut rester à l'écart, à votre avis, ou est-ce qu'on peut investir dans le secteur automobile? Parce que vous avez dressé un tableau particulièrement sombre avec, vous le disiez, des perspectives qui sont, notamment en Europe, plutôt compliquées, et puis surtout, ce qu'avait dit Jean-Dominique Sénard, si on ne fait rien, l'automobile européenne est en faillite dans quelques années.
Bah, vous savez, comme moi, que quand on regarde la valeur boursière de Renault, elle est plutôt liée à la participation dans Nissan, puisque en gros Renault est valorisé à pas loin de zéro en tant que tel. Donc c'est difficile d'aller quand même beaucoup plus bas. Ça dépend de la nature des investissements que vous voulez faire, si vous voulez être un peu spéculatif, etc. Je pense que la question, c'est est-ce que vous faites confiance dans ces managements pour conduire cette transformation qui est devant nous?
Merci beaucoup Mathieu Courtecuisse. Je rappelle que vous êtes président fondateur de Sia Partners. On va rappeler cette info. Hein. 6 mois après l'échec du projet de fusion avec Renault, Fiat Chrysler négocie désormais un rapprochement avec PSA, Peugeot, Citroën. Les deux groupes ont pour l'instant confirmé l'existence de négociations. Ça ne veut pas dire qu'elles aboutiront forcément. Et le mariage de ces deux entreprises donnerait naissance au numéro 4 mondial du secteur automobile avec 8,7 millions de véhicules vendus l'an dernier et pour un chiffre d'affaires cumulé de 184 milliards d'euros. Merci à vous d'avoir été avec nous en plateau. Dans un instant, vous retrouvez Nicolas Dose et ses experts. Quant à nous, on se retrouve demain à partir de midi pour une nouvelle édition de L'Heure H. Très bonne journée.